Aujourd'hui, nous n'aurons pas un texte de base pour commencer la méditation, mais comme texte, j'ai choisi l'image, la rose de Luther, pour vous expliquer un peu ce que c'est, que ça veut dire cette rose et quelle est la signification. Tout d'abord, un bon enseignant, est celui ou celle qui a la capacité de transmettre de grandes connaissances si profondes, mais par un outil très simple. Et c'est ce que Jésus avait fait même à son époque. Il parlait des mystères du royaume de Dieu à travers des paraboles, des petites histoires inspirées de la vie quotidienne, très simples, mais qui contient les mystères du royaume de Dieu. Et Martin Luther, lui aussi, utilisait tous les moyens possibles pour transmettre sa théologie, c'est-à-dire la théologie de la croix, qui est la source de la réforme. Comme quelques exemples, il gardait toutes les choses que l'Église catholique utilisait, qui n'allaient pas à l'opposé de l'enseignement de l'Évangile. Par exemple, si vous allez dans des églises protestantes dans différents pays européens, vous trouverez encore des églises protestantes avec les vitraux où il y avait les récits de la passion du Christ. Pourquoi ? Parce que cela aidait les gens qui ne savaient pas lire à l'époque. Et donc, pour comprendre le message de l'Évangile, il suffisait de regarder autour d'eux et ils ont tout compris. C'est un moyen pédagogique, un moyen pour transmettre. Donc, il fallait trouver tous les moyens, que ce soit image ou tableau, pour transmettre l'Évangile. Par exemple aussi, il a gardé la liturgie, les chants liturgiques. Il composait aussi des chants pour justement véhiculer sa théologie. On vient de chanter le chant que Martin Luther a composé. Tout cela contribuait à l'expansion des grandes lignes de la réforme. Et donc, si je reviens ici à notre image pour résumer toute sa théologie, Luther a fait cette rose qui est le symbole de son enseignement. La croix au milieu, elle est de couleur noire. C'est très important. On ne peut pas la changer en blanc ou en fluo, juste pour le fun, ou en vert. Pourquoi en noir? Donc, la croix noire dans un cœur rouge. Et le premier verset que nous allons lire, c'est dans Romains, chapitre 5, versets 6 à 11, qui explique cela. Romains, chapitre 5, versets 6 à 11. Au nom de Jésus. En effet, quand nous étions encore sans force, le Christ est mort pour les méchants au moment fixé par Dieu. C'est difficilement qu'on accepterait de mourir pour un juste. Quelqu'un aurait peut-être le courage de mourir pour un homme bon, mais Dieu nous a montré à quel point il nous aime. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Et par son sacrifice, nous sommes maintenant rendus justes devant Dieu. À plus forte raison, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. Nous étions les ennemis de Dieu, mais il nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés avec lui, serons-nous sauvés par la vie de son Fils? Il y a plus encore, nous nous réjouissons en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a maintenant réconciliés avec Dieu. Amen. Donc la croix noire dans un cœur rouge représente la foi de celui qui est crucifié. C'est ça qui nous rend juste. La foi en celui qui est crucifié. La foi dans le cœur. On croit en Jésus qui est mort sur la croix. Et c'est ça qui nous rend juste. Et pourquoi la couleur noire? Parce que cette noirceur symbolise le péché qui non seulement a causé la mort à notre Seigneur Jésus-Christ, Mais aussi ce péché doit nous rendre conscients chaque jour que ce péché a causé une grande peine à Dieu. Rappelez-vous au moment où Jésus a rendu son dernier souffle. Le ciel et la terre étaient dans les ténèbres. C'était le moment le plus dur pour l'Éternel. Il a dû laisser son Fils unique mourir à la croix. Mais aussi, ce péché, pourquoi on le garde noir, la croix? Parce que ce péché doit nous causer de la peine à nous. En pensant à ce qui s'est passé à Golgotha. Voilà donc pourquoi il a gardé cette couleur noire. Non seulement le symbole du péché, mais cela a causé de la peine à Dieu, et cela aussi doit nous causer de la peine. Au moment où on fait les prières de repentance, est-ce que vous sentez quelque chose de lourd en vous qui vous oblige à demander pardon, ou c'est juste par formalité, Seigneur, pardonne-nous? Ça doit causer de la peine, puisque ça a causé la peine à Dieu. Et quand nous demandons pardon à Dieu pour nos péchés, est-ce que c'est le fruit d'une sensation que cela nous fait de la peine? Ou bien c'est juste une récitation? Et je me rappelle encore un pasteur qui disait, il ne faut jamais embellir la croix. Parfois, on voit des nouvelles églises où il y a des lumières autour et très jolies. Oui, certes. Mais il a dit, il ne faut jamais embellir la croix. Il faut garder cette identité, ce symbole du péché. Il faut qu'elle reste noire pour nous dire que notre salut a coûté très cher, la vie du Christ. Et que le péché du monde entier a été transféré à lui. Vous voyez un peu sur informatique quand vous jouez, vous transférez vos documents, vous envoyez vers, c'est un peu comme ça, vous envoyez tous vos péchés vers la croix, et le péché de toute l'humanité avant Jésus-Christ et jusqu'à la fin du monde a été transféré sur lui à la croix. Romains chapitre 7, verset 13. Romains chapitre 7, le verset 13, il est dit, ce qui est bon est-il devenu alors une cause de mort pour moi? Certainement pas. C'est le péché qui en a été la cause. Il a fait apparaître ainsi sa véritable nature du péché. Il a été utilisé, ce qui est bon pour causer ma mort. Et voilà comment le péché est devenu un moyen du commandement plus gravement péché que jamais. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le péché reste le péché. Le péché reste mauvais. Et le péché que nous appelons parfois péché mignon est la plus dangereuse parmi tous les péchés. Parce que on arrive à amoindrir la gravité du péché. Et nous sous-estimions par là la souffrance de Dieu pour dire « c'est pas si grave que ça, Seigneur ». Comme si tu disais, tu es mort pour rien à la croix. Et le cœur rouge, qui symbolise la foi, car malgré la force du péché, le pardon et l'amour de Dieu est plus grand. Car si nous croyons à cet amour de Dieu, nous serons justifiés. Et regardez bien la cohabitation de la croix noire et la foi dont le cœur rouge est interpellant pour nous rappeler que nous sommes en même temps justifiés par celui qui a été crucifié, mais en même temps pécheurs. Nous restons des pécheurs tout en étant justifiés. Nous sommes saints, mais nous sommes aussi pécheurs. C'est la dialectique. Saints devant Dieu, mais pas devant les hommes. Devant Dieu, nous sommes saints. Mais devant les hommes, nous resterons des pécheurs, avec nos faiblesses, nos imperfections. Nous resterons toujours des pauvres pécheurs. C'est pour cela que nous devons demander pardon chaque fois. Maintenant, la rose blanche autour du cœur, la couleur blanche, selon Martin Luther, exprime la joie la paix, le confort, qui sont les fruits de la justification par la foi. Et c'était le grand problème de Martin Luther. Avant la réforme, malgré tous les efforts qu'il avait faits, il a prié pendant des heures dans son petit cachot, dans le noir. Il jeûnait des jours et des jours pour plaire à son Dieu. Il se flagellait même à la limite de faire couler le sang. Mais cela ne lui a pas procuré la paix. Il n'avait pas eu la joie. Il était toujours triste. Et un jour, le frère supérieur, Stopitz, l'a vu. « Mais pourquoi tu es toujours malheureux, Luther ?» Il a dit « Parce que mon Dieu est toujours en colère contre moi. » Il n'avait pas pu enlever cette sensation de culpabilité, malgré tout ce qu'il a pu faire. Le Dieu que Luther connaissait avant la réforme était un Dieu qui est toujours en colère. Et même c'était à cause de cette idée-là, rappelez-vous, pour ceux qui ont déjà vu le film, il est devenu moine chez les Augustiniens. Il était sur un chemin un soir et il y avait une forte tempête et des tonnerres qui frappaient de partout. Et lui, il avait interprété cela, toujours cette colère de Dieu qui le poursuivait jour et nuit. Et là, par peur, il a dit, « Si tu m'épargnes la vie, je deviendrai moine. » Et voilà, il est devenu moine par accident, si on peut le dire. Sans le vouloir. Parce qu'il croyait que c'est peut-être par ça que Dieu sera plus content. Il entra dans les ordres à cause de cette idée de cette colère de Dieu. Romains chapitre 5, versets 1 à 2. Romains chapitre 5, versets 1 à 2. Au nom de Jésus. Ainsi, nous avons été rendus justes devant Dieu à cause de la foi, et nous sommes maintenant en paix avec lui par notre Seigneur Jésus-Christ. Par Jésus, nous avons pu, au moyen de la foi, nous approcher de la grâce de Dieu dans laquelle nous sommes maintenant établis. Et ce qui nous donne de la joie, c'est l'espoir d'avoir part à la gloire de Dieu. Voilà la joie qu'il a découverte. Oh, que c'est merveilleux d'être pardonné. Et rappelez-vous, David aussi a écrit un psaume rien que là-dessus. On vient de le lire dans l'entente tout à l'heure. Celui qui est pardonné, c'est quelqu'un qui est dans la joie. Et c'est la première fois qu'il avait eu cette sensation de joie, de paix, qu'il n'a jamais connue. Or, cette joie-là, il l'a reçue gratuitement. La rose blanche se tient dans un champ bleu. Un champ bleu ciel. Cette joie que nous avons maintenant, en tant qu'enfants de Dieu, pardonnés, justifiés, n'est autre que le prélude de la joie que nous vivrons plus tard. Ce n'est encore les prémices de la joie future. 1 Jean chapitre 3, verset 2. Premier épître de Jean, chapitre 3, verset 2. Au nom de Jésus. Mes amis, nous sommes maintenant enfants de Dieu, maintenant, mais ce que nous deviendrons n'est pas encore clairement révélé. Cependant, nous savons ceci. Quand le Christ paraîtra, nous deviendrons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Si on veut illustrer cette image-là, je comprends cela comme le lever de soleil à l'aube. Les premières lueurs du jour qui apparaissent à l'horizon, ce n'est pas encore le jour, mais on voit que le jour va se lever. C'est ça l'espoir chrétien. C'est vrai que ce n'est pas encore la grande lumière tant attendue, le zénith, mais le jour est là. On le voit de loin et que c'est sûr que cela va certainement arriver. L'espoir chrétien n'est pas quelque chose qui est dans le vide. Parfois on dit oui j'ai de l'espoir, mais on sent qu'on force un peu quand on dit ça. Ou bien le fait d'avoir un esprit positif, c'est pas ça l'espoir chrétien. Ah, il faut être positif dans la vie. Non, c'est pas ça le message de la Bible. L'espoir chrétien se tient sur deux principes, le déjà et le pas encore. Je suis déjà enfant de Dieu, mais je ne suis pas encore auprès de mon Dieu. Je suis déjà dans le royaume de Dieu, mais je ne suis pas encore à la droite de mon Père. Voilà le déjà et le pas encore. Parce que nous sommes déjà appelés enfants de Dieu, nous sommes déjà co-héritiers du Fils de Dieu. Et ça, il faut le garder avec la foi. Oui, tu es co-héritier du Fils de Dieu. Tu es co-héritier du Fils de Dieu pour la vie éternelle. Mais son accomplissement total n'est pas encore à son climax, cela viendra. Et de ce fait, un chrétien doit avoir une assurance de salut. Est-ce que tu es sûr de ton salut? Si on te pose la question, si demain tu meurs, tu es sûr que tu seras auprès de ton Père? Tu dis, ça dépendra. Alors là, tu n'es pas encore sûr. Un chrétien doit être sûr qu'il est déjà dans le royaume de Dieu. Dès maintenant. Ça ne dépend pas des 10 dernières minutes avant de rendre sa vie. Non. Je suis déjà enfant de Dieu. Mon salut, ton salut, dépend de ce qui a été déjà fait à la croix. Ne dépend pas de moi. Éphésiens chapitre 2, verset 6. Éphésiens chapitre 2, verset 6. Écoutez bien ce qu'il dit au nom de Jésus. Dans notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ramenés à la vie avec lui pour nous faire régner avec lui dans le monde céleste. Cela veut dire quoi? Tu es déjà auprès de Dieu. Tu as déjà ta place qui t'attend là-haut. Et personne ne peut le prendre. Ça t'appartient. Et c'est en ton nom. C'est ça qui doit donner l'espoir, non? Le fait est que j'ai déjà ma place quelque part. C'est pas un flou. C'est pas peut-être. Mais je sais que si je quitte ce monde, je serai auprès de lui. Et c'est ça le déjà et le pas encore. C'est ça l'espoir chrétien. Et autour du champ bleu ciel, il y a la bague en or. C'est une bague en or. La couleur en or, la bague en or, marque l'éternité. Et non seulement la couleur, mais associée avec le cercle. Pour moi, la vie éternelle, je peux l'illustrer par un cercle, c'est pas une ligne. Souvent, quand on dit la vie éternelle, c'est quelque chose qui dure long. Non, l'éternité, c'est un cercle qui n'a pas de début et qui n'a pas de fin. C'est ça l'éternité. Cela signifie que la bénédiction céleste durera à jamais. Et cette couleur en or montre aussi que cette bénédiction est au-dessus de toute joie qui puisse exister et qui ne se trouve qu'au ciel. Ça ne se trouve pas dans ce monde où nous vivons. Une joie incomparable, une joie qui dépasse la souffrance actuelle. Jean chapitre 16, verset 22. Jean chapitre 16, verset 22. Au nom de Jésus. De même, vous êtes tristes, vous aussi maintenant, oui, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et personne ne pourra vous enlever votre joie. Est-ce que c'est pas beau ça? Personne ne peut enlever votre joie, parce que votre joie ne dépend pas de votre humeur de tous les jours. Votre joie dépend de celui qui est déjà là-haut. Et il vous attend et il a déjà mis votre chaise à côté de lui. Tu seras avec moi. Qui pourra enlever ça? Personne. Oui, on nous a accusé que nous, les chrétiens, nous avions inventé la notion du paradis pour échappatoire, pour échapper à la souffrance de la vie de tous les jours. Donc on a inventé la vie éternelle, comme si c'était une drogue pour oublier un peu la souffrance, pour s'y réfugier psychologiquement afin d'atténuer nos douleurs. Mais ce qu'ils ne savent pas, ces gens-là, c'est que la vie éternelle n'est pas liée à un lieu. Souvent, quand on parle de vie éternelle, on pense qu'on va aller dans une planète quelque part, mais non. C'est pas un lieu, la vie éternelle. La vie éternelle, elle est liée à Christ, mais pas à un lieu. La vie éternelle est liée à Jésus. Jean chapitre 14, verset 3, c'est lui-même qui l'a dit. 14, verset 3, au nom de Jésus. Et après être allé vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi afin que vous soyez vous aussi là où je suis. Là où je suis, vous y êtes aussi. Donc la vie éternelle, c'est là où Jésus est. Peu importe que ce soit dans quelle galaxie, ce n'est pas mon problème. Moi, ce qui est important, tant que je suis avec lui, ça me suffit. Donc ne cherche pas à trouver le lieu, à trouver ça scientifiquement parlant. Moi, ce qui m'importe, c'est être avec mon frère, mon Dieu, mon Seigneur. Alors la vie éternelle n'est pas un lieu promis quelque part dans la galaxie. La vie éternelle, on la vit déjà en nous, puisque le Christ vit en nous. Là où Jésus est, la vie éternelle est présente. Luc chapitre 17, verset 21. Luc 17, verset 21. Au nom de Jésus. On ne dira pas, voyez, il est ici, ou bien il est là. Car sachez, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Dans d'autres versions, là, le royaume de Dieu est en vous. Puisque le Christ est là. C'est ce que disait le pasteur retraité quand j'ai douté de ma vocation au départ. Il m'a dit, dis-moi mon fils, où est le paradis? Je dis, c'est pas ma question. Ma question, est-ce que je suis vraiment appelé pour être pasteur? Et là, il m'a répondu par une question. Dis-moi, c'est quoi le paradis? Où est le paradis? Je dis, je ne sais pas. T'as pas lu cette parole-là? Il m'a donné ce verset. Luc chapitre 17, verset 21. Là où Jésus est, c'est le ciel. Jésus est en toi, alors tu deviens le ciel. Et là, j'ai pleuré. Moi qui doutais, qui cherchais encore, où est Dieu? Mais il est là. Il est dans vous. Tu es le trône de Dieu, parce qu'il habite en toi. Alors, pour terminer, que pouvons-nous en tirer en conclusion avec cet enseignement sur la rose de Luther? Trois choses que j'ai moi-même retenues. On sent un grand soulagement, une grande joie retrouvée chez Luther. On sent que c'est quelqu'un qui a été libéré, libéré d'un joug qui a pesé son cœur. Et la joie la plus grande, c'est le fait de se sentir pardonné. Il faut que vous sentiez que vous étiez pardonné, si vous voulez retrouver cette paix-là. Et deuxièmement, visionnez bien cette rose. Au centre de tout, c'est la croix. C'est le cœur de la théologie de Luther, la théologie de la croix. Elle est la source de toute chose, l'espoir, la paix, la vie éternelle. Tout vient de la croix. La croix qui est censée à donner la mort procure la vie éternelle. Et enfin, la bague en or me fait rappeler l'alliance que Dieu fait avec toi. Dieu a fait alliance avec toi, et cette alliance, il ne rompra jamais. Amen.